de Monsieur Pic maintenant. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir l'intervention jusqu'à 18h40, un temps de questions-réponses, échanges avec vous, et ensuite nous passerons à une autre partie de la soirée. Monsieur Pic.
Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, et je ne me rappelle pas de tous les titres qui ont été évoqués par Monsieur de Monclin, et en tout cas, je suis très très honoré, un peu surpris d'ouvrir un tel cycle, puisque, en effet, lorsqu'on parle de religion, on évoque toujours les grands monothéismes ou de grands systèmes de pensée, de réflexion qui sont plus à l'Orient de là où nous sommes. Et touché aux origines des religions, je peux vous dire que c'est une affaire assez compliquée, puisque par définition, les religions qui sont représentées essentiellement ici, ou les personnes qui sont dans nos cultures, sont liées aux livres, et par définition, la paléo-anthropologie de la préhistoire, c'est avant l'écriture, donc avant le livre, et à partir de là, nous sommes confrontés à d'autres sources de documentation. Alors, sans jouer sur les mots, cette intervention est une véritable création, puisque, effectivement, ça n'a jamais été fait, et j'ai essayé de rassembler pas mal d'éléments qui permettrait de jeter quelques lueurs sur l'émergence de ce phénomène, là pour le coup, dans l'état actuel des connaissances, exclusivement humain, qui concerne donc les religions, et avec des difficultés, vous l'avez très bien dit, cher ami, en ce qui concerne la définition de ce qu'est la religion. Alors pendant longtemps, effectivement, on va voir, il y a eu des approches qui étaient quand même assez naïves d'un point de vue scientifique. Et là, nous allons l'aborder à travers, évidemment, les éléments de connaissances que nous avons en préhistoire au sens large, et des aspects de société. Je ne toucherai pas évidemment au grand monothéisme, il y aura des personnes bien plus compétentes que moi, et donc je n'ai pas allé sur un terrain où je ne serai pas compétent, et déjà celui où je vais aller, je peux vous dire, c'est déjà pas très simple. Donc, d'abord, qu'est-ce que la religion? Alors là, ça a été dit par M. de Monclin. Ah oui, non, mais il serait mieux qu'effectivement... que la lumière soit quand même. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc peut-être, au risque de demander un peu plus d'attention pour votre écriture, on peut peut-être baisser un petit peu la lumière qui est au plafond, c'est possible ça? Et si ce n'est pas confortable, vous le dites, hein, donc on rétablit les choses. Hein, donc n'hésitez pas. Et si et tout le monde entend bien? Parfait, merci. Donc, petit souci technique. Donc vous savez que nous avons quelqu'un en France qui est assez célèbre en ce moment, qui s'appelle Monsieur Frédéric Lenoir, qui a dirigé, plus pour très longtemps je crois, le monde des religions. Et il est intéressant de constater qu'au cours des 10-15 dernières années maintenant, il y a eu de nouveaux magazines, notamment Le Monde des Religions, mais aussi le magazine de la philosophie, ou Philosophie Magazine, qui montre bien que nos sociétés sont en quête de réflexion à la fois sur leurs origines, leur situation et leur devenir. Alors, évidemment, tout à l'heure, M. de Monclin l'a évoqué, le terme de religion, comme disait Cicéron, il y a une religion dans chaque ville, à une époque, effectivement, où les polythéismes et les divinités étaient autant diversifiés que l'ensemble des cités-états, des petites royautés, etc. Et en gros, donc, il y a une grande vacance autour du terme de religion. Pour certains qui sont plus restrictifs, la religion ne concerne que les écritures. Auparavant, on ne parle donc de croyance ou de spiritualité. Donc là-dessus, vous aurez certainement d'autres éléments à aller chercher. En tout cas, depuis quelques décennies, et j'y suis quand même pas mal pour quelque chose, il est clair que tout ce qui avait été affirmé sur le propre de l'homme et qu'on allait chercher ensuite dans les strates de la Terre avait été énoncé sans aucune connaissance des espèces les plus proches de nous. Sans parler des autres populations humaines, installées dans un mépris absolu, comme primitif ou premier, ça faut le faire quand même. Et puis par ailleurs, l'ignorance totale des espèces les plus proches de nous, notamment les chimpanzés. Alors dans l'état actuel de la chose, on ne connaît pas de religion de ce côté-là, mais s'il y a un élément qui tient, c'est cette capacité de se poser cette question, d'où venons-nous et où allons-nous? Et très clairement, ceci concerne l'ensemble de l'humanité. Donc depuis maintenant 140 ans, 130 ans, depuis la naissance de l'ethnologie et ethnographie à la fin du 19e siècle, une des premières interrogations a été d'abord de s'intéresser aux structures de parenté et de filiation, D'ailleurs, au passage, compte tenu de l'actualité, il ne serait pas inintéressant d'y revenir. Et tellement il y a confusion aujourd'hui dans ces débats. Et puis, bien sûr, les systèmes de représentation du monde, les croyances, les cosmogonies, donc les récits sur les commencements. Aussi curieux que cela puisse paraître, quand j'ai commencé, il y a quelques années, à rechercher des transcriptions écrites sur les récits des commencements, ou des origines pour nous, c'est-à-dire les cosmogonies, il y a beaucoup de difficultés à retrouver cette documentation. Il y a des textes épars. En fait, rapidement, les anthropologues ont fait des commentaires et ont un petit peu négligé ce travail important qui consiste à répertorier et, comme on le dit à l'ONU, à transférer sur des supports non périssables. Donc, ces connaissances qui, évidemment, s'envolent comme des paroles lorsque les cultures s'effacent à jamais. Donc, il est très clair qu'une caractéristique de toutes les sociétés humaines, c'est qu'aucune d'entre elles ne dispose pas d'un récit des origines, d'une langue bien sûr, et de systèmes de croyances qui font référence à des entités, qu'on appellera comme vous voudrez, qui sont invisibles et qui font l'objet de célébrations publiques. Donc voilà la définition sur laquelle nous travaillons. Pascal Boyer, qui est français, a produit un livre que je trouve assez désagréable à lire dans sa composition, mais qui est très intéressant, à répertorier un petit peu comment nous pourrions envisager, dans une approche plus moderne, cette question des origines des religions. Alors là, il fait un travail qui est très inscrit dans une épistémologie anglo-saxonne que je connais bien, où là, effectivement, on va aller chercher tous les critères et commencer à les observer, les scruter un à un. Alors, une première catégorie d'explications sur les religions serait donc qu'elles permettent d'expliquer des phénomènes mystérieux ou des choses qui échappent à notre raison ou notre entendement. Donc, le côté du mystère. Bien sûr, les rêves et les prémonitions. Et bien sûr, les origines des choses. Hein, cette grande question absolue de la philosophie. Hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et évidemment, le problème des souffrances et des malheurs. Conséquence, une autre catégorie d'explications serait liée au fait de réconforter, donc de rendre la mort moins insupportable, et puis soulager l'angoisse de l'inconfort que nous donnerait le monde. Alors là, d'emblée, c'est intéressant parce que c'est très occidental comme approche. Bien des cultures n'ont pas ces angoisses comme nous avons dans les nôtres autour de la mort. Et il suffit de penser à la métempsychose, aux avatars, etc. Donc là, vous voyez, c'est souvent très centré sur les fondements de notre propre culture qu'on appellera occidentale, c'est-à-dire celle née autour du bassin méditerranéen. D'autres explications, c'est que les religions fonderaient la cohésion sociale, le relier qui a été évoqué tout à l'heure, il permet de le maintenir, hein. On connaît bien dans notre histoire les enjeux autour des Lumières sur la société de droit divin, par exemple, et qui fonderait la morale, donc vous savez ce qu'il en a été il y a quelques années lorsque l'ancien président de la République avait évoqué le fait que seuls les représentants des grandes religions étaient fondés donc à apporter une morale dans nos sociétés. Les concepts religieux seraient irréfutables. Donc les illusions, alors ça évidemment ce sera les critiques qui viendront de Freud et d'autres, ou Richard Dawkins aujourd'hui, très grand évolutionniste, donc qui disent qu'effectivement c'est de l'obscurantisme, ceci est lié à des croyances irréfutables, et c'est, si on se met à croire, c'est que c'est plus difficile à réfuter qu'à croire. Donc tout ça c'est une espèce de catalogue, et la première erreur qu'il ne faut pas commettre lorsqu'on s'intéresse aux origines de quoi que ce soit d'ailleurs, dans le cadre des théories de l'évolution, c'est que les choses n'apparaissent jamais parce qu'on en a besoin. Ça, c'est déjà le premier critère qu'il faut retenir. Dans les théories darwiniennes, les choses apparaissent avant qu'elles ne soient nécessaires. C'est le couple variation-sélection. Pour ceux et celles qui s'intéressent à l'économie, c'est le couple invention-innovation de Schumpeter, mais qui a tout pris chez Darwin. Donc, il y a effectivement, vous voyez, des interrogations qui montrent très bien toutes les incertitudes autour de cette question. Et pour les croyants, évidemment, surtout dans le cadre des monothéismes, voilà, le monde a été créé, donc ça évacue immédiatement la question de ce qui précède. Donc c'est le concept de création. J'ai bien dit concept, parce que d'un point de vue philosophique, le concept de création est un concept absolument passionnant, mais ce n'est pas à moi d'en discuter. Par ailleurs, Les athées diront qu'effectivement, face à la mort ou à l'angoisse de l'avenir, on a inventé des mythes pour se réconforter. Donc ça, je l'ai évoqué. La question certainement la plus intéressante chez Pascal Boyer, c'est qu'est-ce qui fait que d'un point de vue cognitif, à un moment, au cours de l'évolution de notre lignée, des hommes et des femmes, des sociétés donc préhistoriques, se sont mises à se poser cette question, qui sommes-nous, où allons-nous, et donc la question donc, du sens de la vie, donc de l'ontologie. Alors, évidemment, pas mal d'auteurs sont venus s'accrocher à ces questions-là. Et par exemple, Charles Darwin, dans son autobiographie, il se dit qu'au départ, effectivement, il avait complètement adhéré à cette idée donc, de la création du monde. Il était complètement inscrit dans la théologie naturelle de William Paley. D'ailleurs, étudier William Paley était absolument nécessaire pour rentrer à Cambridge. Hein. William Paley qui avait sorti un livre qui a été réédité d'ailleurs sur l'influence des mouvements créationnistes américains actuels, la preuve de la création par la beauté et la diversité du monde. Donc là, Darwin dira effectivement, quand j'étais jeune, j'ai parfaitement adhéré à cela, et il se dit oui, mais je ne m'étais pas interrogé sur la question des prémices. C'est-à-dire qu'en effet, les philosophes qui s'intéressent à la raison et à la logique nous disent qu'effectivement, une fois que vous prenez un présupposé ou que vous acceptez un concept ou une croyance, évidemment, toute votre rationalité va être mobilisée pour accorder votre conception du monde et vos actions par rapport à ces prémices qui ne sont jamais réinterrogées. Donc ça, c'est un problème, évidemment, d'épistémologie du savoir. Alors c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de Montaigne en ce moment, et j'ai retrouvé ce petit texte de Montaigne, ça n'a pas été difficile, hein. Il a été cité dans le petit opuscule excellent d'ailleurs, Un été avec Montaigne, de Monsieur Compagnon du Collège de France. Donc ce petit livre est absolument remarquable. Et Montaigne disait ceci. Alors Montaigne, évidemment, croyait en Dieu, il était fidéiste, hein, ça c'est pas la question. Mais il disait, voilà, en définitive, c'était dit aussi au XVIIIe siècle, si on est dans un autre pays, on adopte immédiatement les autres habitudes, et notamment les autres pensées et religions. Donc il conclut en disant, nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes périgourdins ou allemands, mais il aurait pu dire aussi musulmans, juifs ou toute autre forme de croyance. Donc il y a effectivement pas mal d'interrogations sur les enjeux entre l'accès personnel à la foi et évidemment comment la société nous amène à adopter effectivement cela, puisque il en est ainsi autour de nous. Charles Darwin, qui au départ était, lui, bien sûr, tout à fait croyant, en tout cas, pas très zélé, mais en tout cas, il ne se posait pas la question. Au fil du temps, notamment lorsque sa jeune fille Émilie est morte à l'âge de 10 ans, en 1851, commencera à se poser des questions, et petit à petit, il va glisser vers l'agnosticisme, c'est-à-dire cette idée de se dire qu'on ne peut pas prouver ou pas l'existence de Dieu, on reste toujours dans l'interrogation. Bon, ce n'est pas tout à fait le pari de Pascal, mais en l'occurrence, c'est intéressant parce que son ami Thomas Huxley, le grand-père d'Aldous et de Julian, créera le terme de agnostique. Le terme d'agnosticisme donc, sera fondé par Thomas Huxley, avec donc des échanges assez forts entre Huxley et l'Église anglicane, mais avec des moments superbes d'ailleurs d'amitié avec quelques pasteurs. Donc ces personnes-là n'étaient pas engagées dans une attitude anti-religieuse, mais en fait leur parcours personnel, leur réflexion personnelle les amenait de plus en plus à s'interroger, donc n'étaient pas dans une démarche d'athéisme de combat, mais de réflexion personnelle. Je voudrais quand même rétablir les choses à cet égard, parce que la France est un pays qui se targue de critiquer Darwin sans l'avoir lu. Alors, un bon exemple de ce dont vers où je vais vous amener. L'idée est en effet que souvent, notamment avec l'idée de création, on a la foi et on est face à son créateur, et les différentes religions ont répondu dans la diversité que vous connaissez et que vous retrouverez de manière plus approfondie dans les prochaines conférences. Mais alors, justement, le petit-neveu de Thomas Huxley, Julian Huxley, qui sera le premier secrétaire général de l'UNESCO, au passage, et grand ami de Teilhard de Chardin, il fera... Oh, pardon, on a changé de personnage, donc... enfin, bon, c'était tout aussi amical, hein. Il disait, effectivement, dès que la psychanalyse a commencé à se faire connaître dans les années 1910-1920, il dira qu'effectivement, c'est un bricolage au sens de l'évolution. Alors, le terme de bricolage, ça peut vous sembler péjoratif, jeté comme ça à vos pieds. Non, bricolage de l'évolution, c'est François Jacob, c'est sur les gènes. C'est Stephen Jay Gould qu'on reverra sur la morphologie et l'anatomie, moi-même d'ailleurs, et puis aussi Claude Lévi-Strauss hein, sur la façon dont, il appellera ça des mythèmes, comment des idées ou des éléments de pensée peuvent se transférer d'un cerveau à l'autre et voire d'une culture à l'autre. Alors moi, ce qui m'a amusé un jour, c'est un peu énervé les psychanalystes, mais bah, je trouve que Freud est un vrai génie parce qu'il a rebricolé un truc qui existait déjà sous une autre forme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un père fondateur, c'est lui, évidemment, il a tout fait pour. Il y a un acte originel, donc il a été puisé ça dans Œdipe et la mythologie grecque. La culpabilité, de toute façon, vous rentrez dans le cabinet d'un psychanalyste, il vous trouve quelque chose. Au lieu du don, donc vous payez très cher, effectivement. Si vous payez quelque chose 3 euros, vous dites, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Quand vous payez 100 euros, vous ne pouvez pas avoir l'air d'un imbécile, donc vous vous dites, non, c'était bien. Bon, les disciples, évidemment, les divergences, les saints, les martyrs, on en parle actuellement, après le diable Onfray qui est tombé là-dessus, les schismes, alors ça c'est caractéristique d'un mouvement sectaire, donc on ne s'entend plus, donc on se divise plutôt que de retrouver de l'accord ou de l'œcuménisme. Ensuite, du concordisme avec la science, alors ça c'est caractéristique, même les créationnistes, tous veulent s'accaparer à un moment ou à un autre le prestige de la science. C'est pour ça qu'on parle de science créationniste aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, évidemment, beaucoup de psychanalystes de la dernière chance se raccrochent aux sciences cognitives. Bon, ils peuvent toujours y aller, ça va être dur. Une inquisition, évidemment, l'ostracisme vis-à-vis des autres. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de procession. Donc, sauf quand Gérard Miller passe à la télé. Donc, tout ça, je trouve que c'est assez génial parce qu'effectivement, c'est du bricolage. C'est, en fait, on appelle ça chez nous des exaptations, c'est-à-dire un tissu d'adaptation qui est apparu dans un domaine qu'on transfère dans l'autre. Et à cet égard, qu'on accepte ou pas la psychanalyse, ce n'est pas la question ici, bien sûr, mais je trouve que ça, c'est vraiment un coup de génie, puisqu'en effet, on retrouve les mêmes éléments, mais dans une forme, soi-disant, et évidemment, sécularisée. Alors, d'où ça vient tout ça ? Avec la naissance de l'ethnologie, à la fin du XIXe siècle, il y a eu, bien sûr, plusieurs tentatives de comprendre les origines de tout ce qui font les sociétés humaines et, bien sûr, des religions. Mais à cette époque-là, et jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe domine le monde, c'est le colonialisme, le racisme institutionnalisé. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, l'autre, c'est le bon sauvage, au XIXe, c'est le primitif. Hein. D'accord ? Donc, toute l'idéologie liée au colonialisme, au racisme, qui donnera cette chose abominable qu'on appelle le zoo humain. Et d'ailleurs, je vous renvoie à deux très bons films, hein. La Vénus noire, à propos de la Vénus hottentote, et évidemment Man to Man, qui n'a pas eu de succès en France, parce qu'évidemment, il nous renvoie en pleine face ce racisme et ce colonialisme, qui d'ailleurs n'est pas complètement évacué de notre société. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, l'idée était de concevoir cette idée d'une préhistoire. D'ailleurs, le terme est intéressant. On a l'histoire, et ensuite, on va aller chercher la préhistoire, et entre les deux, on mettra la proto-histoire, c'est-à-dire l'invention des agricultures, les âges des métaux, et évidemment, l'apparition des cités et des écritures. Et à partir de là, le schéma était préétabli. Évidemment, ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire du monde, et l'idée était d'installer ce qu'on a appelé l'évolutionnisme culturel. En gros, les sociétés occidentales, donc occidentales, je rappelle, dans la terminologie qui est la mienne, c'est tout le bassin méditerranéen, ce n'est pas que l'Occident de la Méditerranée, donc ce qui concerne tout ce foyer des grandes cultures, et évidemment des monothéismes, eh bien, l'idée était qu'effectivement, les autres cultures étaient rangées dans un schéma préétabli. Et l'évolutionnisme culturel, ça consistait à dire que les autres peuples étaient encore dans une espèce d'enfance de l'humanité et qu'il fallait évidemment leur apporter les lumières de notre civilisation. Et bien sûr, ce sera tout l'enjeu, depuis la controverse de Valladolid, évidemment, tout l'enjeu des missionnaires. D'ailleurs, la controverse de Valladolid, c'est intéressant, puisqu'effectivement, il y a eu deux approches déjà de cette époque-là. Ceux qui disaient que ce n'étaient pas des hommes, en tout cas des sous-hommes, et qu'on pouvait les exploiter comme on voulait. Et puis évidemment, Sepúlveda qui lui avait une autre approche et qui consistait à dire ce sont des hommes comme nous et il faut leur apporter la lumière. D'ailleurs, à cette époque-là, le pape Jules III avait une position très ferme qui malheureusement n'a pas été respectée par les conquistadors, c'est-à-dire les respecter, ces hommes, leurs croyances, leurs biens, évidemment, dans l'espoir de les amener dans la maison du Christ. Donc vous voyez, ces enjeux ne sont pas d'aujourd'hui, ils existent toujours, mais le terme de primitif a été installé à cette époque-là, Et aujourd'hui encore, lorsqu'on parle des aborigènes, eh bien, ils représentaient soi-disant les hommes de Cro-Magnon des âges glaciaires. Franchement, les glaciers en Australie, on n'en a pas trop vu. Mais tout ça, évidemment, c'était déjà préforgé. Les populations comme, moi j'ai appris ça quand j'étais jeune, hein, les nilotiques, hein, soi-disant les villes sur les lacs, notamment en Suisse. Donc les populations qui étaient encore, qui sont encore agricoles avec des outils arrières assez médiocres, eh bien c'était le néolithique. En gros, si vous voulez, il y avait une seule vision du monde qui était dirigée vers l'apothéose des sociétés occidentales, et toutes les autres étaient en retard sur un même schéma de progrès, sur lesquels où ils disparaissent parce qu'évidemment, tel est leur destin, ou effectivement, ils ont la chance de rattraper le train du progrès avec nous. Alors ça va donner des choses rigolotes. Par exemple, le professeur Jean Delumeau du Collège de France, pardonnez-moi, il y a pas mal de personnes qui sont bien dans cette maison. Jean Delumeau a beaucoup travaillé sur ces questions du paradis, et c'est étonnant. Et Voltaire leur a d'ailleurs complètement raillé l'idée d'Eldorado. Donc, on allait chercher les preuves des mondes d'avant à travers ces grands voyages. Et évidemment, ceci va apporter bien des déceptions. Et c'est exactement la même logique que celle des mondes perdus. Hein, Conan Doyle, 1910, ce film qui est adapté plusieurs fois, c'était l'idée qu'effectivement, même si on trouvait des fossiles par exemple, de saris, ce qu'on appelle des marsupiaux, qui en Australie, en Amérique du Sud aujourd'hui, mais c'est que forcément, ils existent encore dans le monde. Donc ça avait bougé. Donc il n'y a pas eu de nouvelles choses, mais les choses ont bougé. Donc l'idée des mondes perdus, c'était de se dire, et ça va être repris d'ailleurs avec beaucoup de talent par Spielberg dans Jurassic Park, c'est l'idée qu'effectivement, les choses existe encore quelque part dans le monde. Hein. L'idée que ça n'a pas disparu, mais que ça a bougé. Alors, il y a eu des missions comme celle de Pie XI, c'est intéressant, j'ai vu ça récemment en préparant cette conférence. En 1923, Pie XI, lui, va commencer à inverser l'idée en se disant que peut-être ces autres peuples qui ne sont pas monothéistes ont dérivé, et il financera des missions, notamment dans les années 20, c'est vraiment là. Les grandes années de l'ethnographie, hein. Tout le monde pense à Tintin et Milou, évidemment, chez les Pygmées, pour essayer de montrer qu'au départ, c'est quand même le monothéisme et que d'autres ont dérivé, comme en d'autres temps, il y a eu des hérésies ou des divergences ou des schismes, etc. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme cela. Et puis Pie XI, Pie XII, hein, Pie XII, c'est intéressant en termes de concordisme. Pie XII était heureux de l'histoire du Big Bang, vous ne pouvez pas imaginer. Le Fiat Lux et le chanoine Lemaître, vous savez, qui est le co-inventeur de la théorie du Big Bang, hein, avec à la suite d'Einstein, etc., a dit: Non, non, monseigneur, attention, votre sainteté, attention au concordisme, parce que la science, si elle a une vertu, c'est qu'elle change tout le temps. Donc, en tout cas, ça montre bien que les pères de l'Église et puis les papes ont toujours été intéressés par ces questions et que les sciences, évidemment, n'ont jamais été complètement perçues comme opposées à cette affaire-là, comme aujourd'hui les théories de l'évolution à l'Académie pontificale. Donc attention aux clichés dans cette affaire-là. En tout cas, on voit bien qu'il y a une fascination pour comprendre d'où ça vient. Alors, ce qu'on va mettre en place, c'est quelque chose d'assez, et je vous emmène vers des terrains plus moléculaires, si je peux me permettre, des croyances qu'on appelle les ontologies. Donc, ce qu'on a appris, vous comme moi, c'est une idée qu'effectivement, d'accord, il y a évolution, donc il y a changement, évolvere. Et d'ailleurs, Charles Darwin ne voulait pas de ce terme évolvere. Évolvere, ça veut dire déplier, déployer quelque chose de préexistant. Donc, tout ce qu'on a appelé comme l'hominisation, donc vous avez parlé tout à l'heure de Teilhard de Chardin, mais décidément, il bouge beaucoup, ce monsieur. Hein. Les esprits de Monclin m'entourent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, le terme d'évolvere, c'est l'idée qu'il y a un processus. Et Teilhard de Chardin, en fait, n'a jamais dit ça. Teilhard de Chardin n'a jamais décrit, en fait, comme s'il y avait une loi cosmique qui s'imposait à l'histoire de la vie. Ils disent aussi bien les deux. Le principe d'hominisation est un principe de responsabilité. Il serait temps qu'on y revienne d'ailleurs. Mais en l'occurrence, ça a été très mal perçu. Ça s'est retrouvé dans les programmes scolaires. J'ai mis 15 ans à sortir ça des programmes scolaires. Et l'hominisation était décrite comme s'il y avait une loi interne, hein, transcendance ou immanence, vous pouvez mettre ce que vous voulez d'ailleurs, qui aboutit forcément à l'émergence d'Homo sapiens. Et derrière, c'est l'homme face au cosmos. Donc, évidemment, c'est le Christ cosmique qui a valu quelques difficultés en son temps à Teilhard de Chardin. Je rappelle qu'il avait été nommé, enfin élu au Collège de France comme professeur, mais pour des raisons lié à la généralité des jésuites, il n'a pas pu prendre cette fonction et après il ira à New York. Donc en attendant, Teilhard de Chardin, qui était un très grand paléontologue, un des meilleurs scientifiques de son temps, il était un des rares qui avait visité tous les sites connus à l'époque, dont celui de Choucoutienne à la suite de la croisière jaune. Teilhard de Chardin, évidemment, ne nous propose pas du tout un schéma préétabli au sens d'évolvéré que Darwin ne voulait pas. Mais voilà, vous allez percevoir qu'en science, et comme dans les grands modes de pensée du monde, vous avez des éléments plus fondamentaux de pensée ou de relation à la vie et au cosmos qui sont toujours sous-jacents, dans des combinaisons d'ailleurs souvent différentes, parfois toutes les combinaisons. Vous avez à gauche, vous avez parlé de la Renaissance tout à l'heure. La Renaissance, c'est une période qui retrouve des pensées analogiques, c'est-à-dire l'idée que l'homme est un microcosme qui reproduit le macrocosme, voilà la fameuse figure que vous connaissez de Léonard de Vinci, et ça sera traduit chez nous par cet aphorisme célèbre de Ernst Haeckel, immense évolutionniste allemand, qui dira que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Donc l'idée est qu'il y a quand même, dans cette grande affaire de l'évolution et du changement, il y a quand même une loi sous-jacente, et ça va être transposé aussi chez Piaget. L'idée que l'ontogénèse, donc, est le développement de l'individu, et la phylogénèse, qui est l'histoire des espèces, donc l'ontogénèse est l'histoire de l'individu, la phylogénèse est l'histoire des espèces, donc l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, et c'est comme ça qu'on entend encore ces billevesées qui disent que au cours de notre stade embryonnaire, on passe par le stade poisson, reptile, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait, on reproduit des stades structurales, mais on pourra aborder ça dans les questions si vous voulez. Mais en attendant, il y a l'idée d'une identité absolue, ontologique, entre l'individu et le cosmos qui l'entoure. Et ceci va se transférer dans les idées d'évolution avec ce schéma qui aboutit à cela. Et bien, par exemple, Jean Piaget, immense scientifique et qui s'est beaucoup intéressé à l'autogénèse donc, psychologique de l'enfant, reproduira aussi ces schémas. Alors, ce n'est pas complètement faux, mais ça a besoin d'être précisé. Et le pauvre Piaget, il n'a pas vu ce qu'il allait lui tomber dessus à Royaumont en 1972, quand François Jacob lui a expliqué que son histoire était quand même pas mal remplie de présupposés, même s'il a beaucoup contribué à la psychologie de l'enfant, comme vous le savez. Donc, c'est intéressant parce que c'est même les meilleurs scientifiques du monde, et s'il comprend tous ceux qui existent encore aujourd'hui, on a beau croire que nous sommes dans la pure rationalité et dans la pure objectivité, mais pas du tout. Nous avons toujours, lorsqu'on passe sur le moment de l'interprétation de nos résultats, ces retours donc au mythe, c'est comme ça. Le tout, c'est le savoir. Alors voici donc ce qui s'est passé donc à la fin du XIXe siècle, où effectivement on a rangé ces peuples dans une vision de l'enfance de l'humanité, ou primitif, et donc il y a identité totale sur un même schéma qui concerne aussi bien l'enfant que les espèces, que les autres peuples. Alors du coup, évidemment, ceci va être projeté plus loin dans les temps obscurs de la préhistoire, et en définitive, que va-t-on tenter de faire? C'est tout simple. On va regarder les modes de pensée, de croyance ou de spiritualité des autres peuples, donc totémisme, animisme, chamanisme, tout ça d'ailleurs délicieusement confondu entre les systèmes de croyance et les pratiques. Le chamanisme est une pratique, le totémisme c'est un système référentiel, comme on va le voir. Et derrière cela, en effet, on ne s'est pas du tout posé la question de savoir si on avait affaire à d'autres systèmes. Alors évidemment, vu les données dont nous disposons, des outils et de l'art préhistorique, à chaque fois, on a tenté de se dire « Ah ben à quoi ça sert tout ça ?» Donc toujours la notion de la nécessité matérialiste, d'ailleurs c'est assez amusant, et non pas ontologique. Donc l'art préhistorique, eh bien, c'est fait pour rendre la chasse plus propice, ou pour soigner, ou favoriser donc, les éléments. Donc l'idée qu'effectivement, une des idées vu tout à l'heure sur les origines des religions, que effectivement la religion permet de mieux maîtriser les mystères et ensuite d'être plus favorable dans ce rapport difficile aux éléments qui nous entourent. Donc du coup, on n'a rien cherché d'original sur les données elles-mêmes, simplement c'était déjà des présupposés sur lesquels on a calqué des éléments de la diversité des sociétés actuelles. On y va. Animisme, totémisme, chamanisme. Alors, L'idée qui traîne encore aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'ensemble des sociétés qui sont encore celles des chasseurs-collecteurs, celles qui sont très soumises à des environnements dans lesquels ils ne produisent pas et ils vont puiser leurs ressources, effectivement qu'il y a une très grande diversité d'esprits avec lesquels ils vont intercéder. Mais vous voyez, je vous donne trois éléments ici de l'art préhistorique des périodes récentes. À gauche, la grotte Chauvet. Et là, on pourrait dire, tiens, c'est de l'animisme, pourquoi pas, parce qu'on a ces magnifiques lions en mouvement, d'ailleurs. Et l'idée, effectivement, est que lorsqu'on observe les peuples actuels, notamment les Bushman, les aborigènes, etc., il s'avère que dans les différentes parties de l'année, lorsqu'il y a des cérémonies, eh bien, ce sont les moments où ils rafraîchissent déjà les dessins ou les représentations graphiques que vous voyez ici, ou alors ils en créent de nouvelles. Et on s'est aperçu, notamment après l'étude des Bushman assez récemment, que certains mouvements qui étaient sur... Alors on est en Namibie, eh bien que ces mouvements représentent des danses, en tout cas des rituels. Donc il y a certainement, bien sûr, des relations. Quant à dire que ce sont exactement les mêmes, de croire que ces peuples sont restés complètement bloqués, ça, ce n'est pas du tout vrai, parce que d'abord, ils évoluent aussi. Et là, tout de suite, je voudrais préciser quelque chose qui est très mal compris dans l'évolution. Quand je dis que ma main est archaïque, c'est parce qu'elle a 5 doigts. Et archaïque, chez nous, ça ne veut pas dire que c'est un jugement de valeur. Ça veut dire archaïque que c'est apparu avant. Donc le plan d'une main à 5 doigts, ça remonte à 350 millions d'années. Mais ça ne veut pas dire que sur son plan n'ont pas évolué des fonctions extrêmement complexes en termes de préhension, de toucher, etc. Pour prendre quelque chose de plus trivial, pardonnez-moi, la voiture est plus archaïque que l'avion. Mais je pense que les voitures évoluent quand même pas mal. D'accord ? Donc attention à ça, quand on dit archaïque, ça ne veut pas dire que ça n'a pas bougé. Hein ? Même les animismes ne sont pas isolés des autres apports ou échanges que peuvent avoir ces peuples, notamment les Pygmées avec les Bantous, notamment, qui nous ont apporté des idées d'ailleurs un peu plus monothéistes. Donc, maintenant, si on allait un peu plus tout de suite, là en bas à gauche, c'est la célébrissime scène du puits de Lascaux, hein, où là, effectivement, on pourrait évoquer la transe d'un chaman qui est bousculé par les esprits, là, représenté par un bison qui charge, et cet oiseau, l'oiseau d'ailleurs, est très rarement représenté en bas à gauche dans l'art préhistorique. Et puis à droite, c'est Hollenstatten, c'est en Allemagne, là, pourquoi pas, c'est rarissime, donc vous avez... ceci, ça date de autour de 25 à 30 000 ans, enfin entre 20 et 30 000 ans. Eh bien, cette petite statuette superbe, anthropomorphe, donc en forme d'homme avec une tête de félin, on pourrait, pourquoi pas, parler totémisme. Bon, alors là, franchement, là, je fais simplement un acte d'autorité en vous disant cela. Je pourrais le faire sans vous prévenir et vous pourriez me croire. En fait, on n'en sait strictement rien. Hein. C'est plausible. On ne peut pas le tester. Là aussi, on a parlé du culte de la fécondité. Vous me pardonnerez un petit peu cette représentation en bas à gauche, que je trouve assez amusante. Là aussi, franchement, des martiens anthropologues viendraient sur la planète Terre, ils tomberaient sur les tableaux de Rubens ou les statues de Botero, ils pourraient aussi écrire pas mal d'histoires sur la morphologie des femmes de notre époque. Hein. Bon, ceci dit, avec le taux d'obésité qui augmente, c'est pas gagné. Par contre, je rappelle qu'en France, dans les pays développés, les Françaises, les Français d'ailleurs, sont les plus minces du monde développé. Donc merci, en tout cas, ça élimine cette interprétation. Donc attention, s'agit-il d'esthétique, de culte de fécondité, etc. On n'en sait franchement pas grand-chose. Là, il y a des gravures qu'on ne vous montre pas. Il y a aussi de l'érotisme. Imaginez que nos martiens tombent sur Playboy, qu'est-ce qu'ils pourraient dire hein. Donc là aussi, il y a une diversité de représentations, certainement avec différentes motivations. Je ne suis pas en train de tout déstructurer, mais très clairement, par exemple, cette Vénus de Willendorf qui est ici. Au passage, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque il faut savoir qu'à cette époque-là, aujourd'hui, on parle de mondialisation de manière un peu bousculée, je dois le dire, par ce qui se passe, mais ça a toujours existé. En fait, ces canons esthétiques nous viennent du centre de l'Europe et de l'Asie occidentale. Ça n'a pas été inventé en Europe et ça va diffuser depuis l'Oural et même vers la Mongolie et aussi vers chez nous et qui vont être transposés d'ailleurs sous forme de gravures et de manière très différente. Alors que par exemple à Istüritz, qui est à côté de Biarritz, un site absolument magnifique. C'était une très grande fabrique d'objets absolument sublimes en os, comme des propulseurs sculptés, et qu'on retrouve donc également, cette fois-ci, dans un mouvement d'ouest en est. Donc, dès cette époque-là, bien sûr, certainement avant, il y avait des canons, des diffusions, des valeurs qui se diffusaient d'est en ouest. Alors, ça, on le connaît bien sûr sur l'Europe préhistorique, parce que là, ça se conserve bien. Par contre, nous avons d'autres choses ailleurs, mais la préhistoire a commencé plus tardivement en tant que discipline, pas en tant qu'évolution, et on a beaucoup moins de données. Donc nous sommes très contraints. Par exemple, vous savez qu'on trouve de l'ADN fossile, donc on ne peut pas trouver d'ADN fossile au sud de la France. Pourquoi ? Parce que le climat est trop doux et l'ADN se détériore. Donc toutes les données qu'on vous donne ne sont qu'effectivement dans les sites qui sont sous des plus hautes latitudes. Ce sont nos contrats. Mais alors là, on a eu beaucoup de délires qui ont été repris un peu partout d'ailleurs, comme en psychanalyse. Ce n'est pas une obsession, mais la psychanalyse est quand même assez emblématique de cela. Je rappelle que Freud était un très très grand lecteur de Darwin, et Freud était parmi ceux qui connaissaient le mieux tout ce qui se faisait en ethnographie à cette époque-là. Donc Freud était quelqu'un d'extraordinairement documenté à cet égard. Puis ensuite donc, il a bâti sa théorie. Et ça, c'est une autre affaire qui se met en place, bien évidemment. Alors, pour vous donner un exemple de notre occidentalocentrisme, alors la préhistoire, ça commence en Europe. La France, évidemment, y a largement contribué et reste une des nations prépondérantes grâce à de grands personnages comme Henri de Lumley ou Yves Coppens, ou Bernard van der Mersch, qui a été mon premier patron. On va le voir arriver, Bernard, tout à l'heure. Et en l'occurrence, évidemment, c'est nous qui dictons les choses au monde, et la préhistoire commence chez nous. Donc, évidemment, la tentation est tentante. Et là, on renforce le schéma, bien évidemment. Les circonstances sont atténuantes, mais en tout cas, on y va. Et par exemple, c'est pas pour parler de choses douteuses, mais par exemple, ces femmes avec ces formes stéatopiges, hein, stéatopiges, ça veut dire avec des concentrations de graisse importantes, ça a été décrit comme une sélection naturelle, donc, dans des environnements glaciaires où les femmes devaient stocker de la graisse pour passer les périodes froides et nourrir les petits. D'où l'idée que la poitrine développée constamment venait de là. Bon, il y a un petit problème quand même, c'est qu'on vient d'Afrique. D'accord ? Donc, vous voyez ? Alors, nous allons commencer à aller un petit peu dans une façon, un travail un peu plus moléculaire. Et là, on va retrouver les travaux de quelqu'un d'autre du Collège de France. Désolé une fois de plus, c'est M. Philippe Descola. Il est vrai que la grande diversité des ontologies, c'est-à-dire des rapports à l'autre et à ce qui nous entoure, sont assez simples. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles, vous allez le voir. Il y a moi, il y a mon âme, il y a mon corps. C'est simple, 2 × 2, 4. Il y a 4 ontologies fondamentales, ce n'est pas compliqué, qu'on va voir percoler, c'est le vrai sens du terme, à la fois dans les grandes philosophies, les grandes religions, et même en sciences, je dois le dire. Donc c'est tellement fondamental qu'on le retrouve partout. Et donc, c'est effectivement, il y a différents niveaux de conscience. Hein, il y a moi, l'ego, le conscience de groupe, la conscience du clan. Alors ça, je ne vais pas vous bousculer, ce n'est pas le sujet, mais on l'a chez les chimpanzés. Ensuite, le système donc était éco-centré sur son environnement, et pensée universelle et la pensée divine. Alors ça, par contre, ça reste dans l'état actuel des choses que chez les hommes. Et alors, bien sûr, donc c'est pour ça souvent, lorsqu'on parle du moi et de l'autre, eh bien, quand vous parlez de l'origine de la conscience, c'est un machin qui est tellement énorme que vous ne pouvez pas travailler avec ça. Par contre, conscience de soi, conscience de l'autre, conscience de groupe, bien, mal, quand vous commencez à mettre des éléments de conscience qui constituent la vie en société, là on peut commencer à espérer faire un travail un peu plus minutieux pour retracer les évolutions. Alors Philippe Descola, dans un livre qu'il faut absolument lire, qui s'appelle « Par-delà nature et culture », c'est Essai Gallimard 2005, donc Philippe Descola, dans la tradition de Claude Lévi-Strauss et de Madame Françoise Héritier, Maurice Godelier, donc une très très belle école d'anthropologie sociale, eh bien, a défini 4 types d'ontologie fondamentales qui sont en fait assez simples. Dans le premier cas, le totémisme, moi et mon corps, donc mon âme et mon corps, s'identifient à un élément qui m'entoure. C'est le totem, et ce totem évidemment va dicter. Alors le totem, c'est un terme qui nous vient des Algonquins, mais le totémisme fera l'objet de très grandes études et beaucoup de discussions d'ailleurs en anthropologie depuis cette époque-là. Mais Le totem, ça peut être un kangourou, ça peut être un jaguar, etc. Et à partir de là, je m'identifie à cela et ça va dicter mes règles pour le mariage. Je ne peux pas le manger. Dans tout cas, ça, c'est le fondement d'un ensemble d'injonctions morales et comportementales au sein du groupe. Donc, mon corps et mon âme s'identifient à un élément qui est reconnu par le groupe, c'est le totem. Nature anthropocentrée, ça c'est nous, le dualisme. Le dualisme, là, il y a séparation du corps et de l'âme, et nous acceptons que notre matérialité, qui est une déchéance dans pas mal d'interprétations religieuses, ou même philosophiques d'ailleurs, on accepte que notre corps, notre matérialité fasse partie de la terre. Par contre, notre âme, notre croyance, notre raison, notre empathie, ça vient d'ailleurs. Évidemment, vous connaissez ça aussi bien que moi. Alors, il est intéressant, on en reparlera, Michel Serres s'est livré un petit travail absolument délicieux dans un livre merveilleux qui s'appelle Écrivains, savants et philosophes font leur tour du monde, donc un voyage dans les ontologies. Et c'est intéressant parce que ce dualisme qui sépare l'âme et le corps est vraiment quelque chose qui est lié aux cités. C'est la croyance des clercs. C'est l'ontologie fondamentale qu'on trouvera en philosophie, exprimée fortement par Descartes chez nous, car effectivement, le moindre paysan, lui, a du mal à considérer que sa bête, n'est qu'un amas, complètement articulé, comme un automate. Hein? Donc là, c'est intéressant, le dualisme est vraiment, dans la culture occidentale, au cœur des grands systèmes de pensée, dont les religions, qui sont liées aux civilisations, aux États et aux civilisations. L'autre élément, c'est l'animisme. Alors l'animisme, c'est l'inverse de chez nous. Donc il y a séparation entre l'âme et le corps. Mais en fait, l'ensemble du monde est considéré comme une seule âme, mais on diffère par sa matérialité. Descola parle de physicalité. Par exemple, grande civilisation, le shintoïsme. Et au risque de vous surprendre, chers amis, je ne vous connais pas bien, non, même pas du tout d'ailleurs. Mais j'ai cru percevoir vos niveaux, que vous avez tous des niveaux de responsabilité. Eh bien, sachez que, par exemple, nos politiques scientifiques sont encore dictées par nos ontologies. Si vous êtes japonais, ça ne vous pose aucun problème que les macaques aient des cultures. Donc, c'est la meilleure école d'éthologie du monde. Par contre, chez nous, il faut prouver que les chimpanzés aient des cultures. Parce que nos ontologies fondamentales nous obligent, nous en science, à porter la preuve, la charge de la preuve. Donc même nos grands programmes scientifiques sont encore dictés par nos ontologies fondamentales. Ça peut vous surprendre, mais ça, voilà. Je sens mal à l'aise. Et en dernier, l'analogie. L'analogie où là, cette fois-ci, il n'y a rien qui existe en tant que représentant de mon âme et mon corps. Cependant, il y a un objet qui est apparu dans le cosmos lorsque je suis venu au monde et qui disparaîtra avec moi. Et ça, c'est tout ce qui est astrologie, numérologie, tout ce qui est donc la recherche à travers ce qu'on appelle tous les mancies, c'est-à-dire la capacité de prédire le monde ou de dire les choses, donc tout ce qui est astrologie, chiromancie, enfin, il y a des tas de façons, les dés, les cartes, les tarots, donc vous connaissez ça aussi bien que moi. Récemment, il y avait un reportage au journal Le 20h. C'est fou de constater comment le chiffre d'affaires des astrologues est quand même nettement supérieur à celui de la recherche en France. Mais l'État n'y est pour rien, on est bien d'accord. Bon. Donc, en tout cas, ça vous donne quatre façons fondamentales d'envisager donc le rapport au cosmos. Et ce travail donc va nous donner des choses assez rigolotes, puisque en effet, on s'aperçoit que ces ontologies se baladent dans le monde. Et en conclusion, on verra tout à l'heure comment effectivement les peuples se promènent avec leur langue, leur gène et évidemment leurs croyances. Et il est vrai que l'animisme, qui est représenté ici de façon striée, se retrouve partout dans le monde. Alors, quand on est un évolutionnisme basique comme moi, quand vous avez quelque chose qui est partout dans le monde, c'est qu'il y a des chances que ce soit plus ancien, hein, puisque un caractère qui est présent dans beaucoup de lignées, ça veut dire qu'il est apparu plus anciennement dans l'arbre phylogénétique, comme on dit dans notre jargon. Donc, est-ce que l'animisme est en effet la religion des origines? Je ne vais pas tomber dans ce travers, mais il est très clair que l'animisme représente certainement un des modes de relation au monde et de compréhension du monde les plus répandus, mais évidemment, il n'est pas resté figé, puisque cet animisme, vous voyez bien, on le retrouve en Amazonie, au Chili, enfin c'était plutôt Léona à l'époque, qu'a connu Darwin, on le retrouve à Hokkaido, on le retrouve chez les aborigènes, On le retrouve chez les Algonquins, on le retrouve donc chez nos Lapons ou les Samis, dont on a parlé récemment à propos des Jeux Olympiques, etc., etc. Donc très certainement, l'animisme fait partie, bien sûr, d'un mode de croyance, mais qui a évolué, qui s'est diversifié, parce que plus c'est ancien, plus ça s'est diversifié. Alors, est-ce que nos sociétés modernes sont à l'abri de ça? Et c'est là que Michel Serres est très rigolo dans ce petit livre absolument délicieux. Donc, écrivains, savants et philosophes font leur tour du monde. Bah, nous sommes tradalistes, hein, donc j'ai mis ici un tableau de Magritte. Nous sommes totémistes, hein, le drapeau est un totem, bien sûr. Les scouts utilisent des totems, les mascottes sont des totems. Hein. Bien sûr, ça ne correspond pas, ce sont des activités très limitées, ce n'est pas l'ensemble de la société, mais et là, évidemment, comme vous le savez, Seconde Guerre mondiale. L'astrologie, j'en ai parlé, donc là, évidemment, c'est encore très présent dans nos sociétés et avec beaucoup de succès commercial. Et nous sommes aussi animistes, hein, quand même, à Plessa une souris, c'est quand même assez génial. Hein. D'ailleurs, quand vous perdez une clé, tous, hein, vous vous dites pourquoi mes clés ont changé de poche toutes seules, hein. D'accord? On est tous un peu animistes. Alors, évidemment, ce n'est pas un animisme structurant, parce que l'essentiel de notre société est dualiste, on est bien d'accord, mais on voit bien que ces modes de pensée, même s'ils sont évidemment plutôt anecdotiques en ce qui nous concerne, eh bien, dites-moi si dans une journée, vous n'êtes pas dit, on a tous des petites superstitions, ce que les psychologues appellent les TOC, mais on a tous nos petites manies, hein, d'accord ? Nos petites superstitions, qu'on le veuille ou non, même les personnes les plus rationnelles. Donc voilà, c'est des petits moyens de se rassurer, le tout c'est de le savoir, mais soyons très clairs, nous, pour les personnes qui sont ici, pour les grandes cultures occidentales, le mode de pensée dominant, et évidemment le dualisme. Et c'est là que Darwin va poser un vrai problème. Parce que Darwin, évidemment, va travailler sur cette théorie de l'évolution, comme tous ses collègues et tous ceux qui suivent. Et l'évolution n'a pas posé trop de problèmes tant que cela ne concernait que notre physicalité, notre matérialité. Mais Darwin, justement, en 1844, dans une lettre à son ami Hooker, il dira: je me fais l'effet d'avouer un meurtre. Quel est ce meurtre? C'est le meurtre de la métaphysique occidentale. Darwin, c'est une théorie moniste, c'est-à-dire qui associe à la fois le corps et l'évolution de l'esprit. Donc c'est pour ça que la raison fondamentale pour laquelle la théorie darwinienne pose des difficultés par rapport à nos modes de pensée les plus importants, les plus structurants de notre histoire, c'est qu'évidemment, elle n'est pas dualiste, elle est moniste. Alors, c'est ça que j'avais bien aimé ça chez Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II avait fait une intervention absolument qu'on a beaucoup aimé, nous tous, en 1996, en octobre, lorsqu'il disait, en effet, l'évolution, c'est plus qu'une théorie. D'ailleurs, Jean-Paul II est très fin, parce qu'il utilise un concept de l'épistémologie qu'on appelle la consilience. La consilience, c'est exactement ce que dit Jean-Paul II. Il dit, il est tout à fait remarquable de constater que cette théorie, alors il ne la cite pas quand même, enfin de l'évolution, est arrivée à une convergence dans des disciplines indépendantes sans que ceci ne soit nullement recherché. C'est-à-dire que chez nous, si on a des fossiles, les os, qui convergent avec les datations que nous donne l'ADN, donc nous avons un bon schéma. Donc il y a consilience de deux modes de pensée ou de collègues ou de recherches indépendants qui convergent sur le même modèle. C'est ça la consilience. Et la consilience, donc, est au cœur des théories de l'évolution. Et Jean-Paul II l'avait très bien vu. Et Jean-Paul II se rattrape d'une manière extraordinairement logique et subtile en disant, oui, mais au bout d'un moment, l'homme rencontre son créateur. Donc, du coup, la création vient là. Donc, l'histoire est différente. Moi, ça ne me pose strictement aucun problème par rapport à ça. Et une petite anecdote. Vous connaissez, tous entendu parler, M. Stephen Hawking, le grand cosmologue qui est très handicapé. Donc, il avait rencontré Jean-Paul II. Et Jean-Paul II lui glisse dans le creux de l'oreille. Professeur, nous sommes bien d'accord. Avant le Big Bang, c'est nous. Après, c'est vous. Ben, ça, c'est ce qu'on a appelé, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que dira Galilée. Galilée dira, dans une lettre à la reine Christine, la science dit comment va le ciel, la religion dit comment on va au ciel. Oui, il y a toujours moyen. Ce que reprendra Buffon, comme Voltaire, qui n'était pas théiste, hein, je rappelle, le théisme, c'est Dieu qui est toujours présent avec sa création, tout ce qui se passe autour de nous, c'est la volonté de Dieu, et que le déisme qui émerge donc au XVIIIe siècle, c'est qu'il y a bien sûr un Dieu créateur, mais que ce Dieu a installé des lois qui gouvernent le monde, et donc aux scientifiques de s'intéresser aux conséquences. Donc, de manière très subtile, Buffon dira, la science ne s'intéresse pas aux causes premières, c'est-à-dire les origines, l'émergence, la métaphysique pour faire simple, puisqu'une fois que c'est créé, ça c'est notre job, donc le job des scientifiques. D'accord. Donc, séparation des magistères, comme le dira Stephen Jay Gould, mais j'y reviendrai donc tout à l'heure. Donc, comme le disait ce cher Lamnis, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Traduction, donc, docteur Pangloss dans Candide. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, et à partir de là, donc, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais c'est là qu'une fois de plus, pardon, ce commentaire n'est jamais fait. Quand Charles Darwin, en 1859, publie l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, il dit qu'une espèce, dont l'étymologie c'est comme l'essence, je rappelle, la même étymologie, espèce-essence, au moyen de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'un facteur matérialiste peut être à l'origine de quelque chose. À partir de là, c'est une rupture totale avec le dualisme et le consensus qu'il y a eu avec la théologie naturelle. Donc en fait, à part l'affaire Galilée, bon évidemment, Giordano Bruno, et ça ne s'est pas très bien passé, mais il y avait d'autres histoires. Galilée s'en sort, il n'a pas été très habile d'ailleurs, dans cette affaire-là. Il a plutôt braqué tout le monde. Mais globalement, ça s'est très bien passé toujours entre les sciences et les religions. Mais avec Darwin, évidemment, c'est une difficulté, puis on continue. En fait, quand je parle de ça avec mes copains théologiens, hein, avec le retour des créationnismes, hein, ils disent, c'est pas vous les scientifiques qui nous embêtez, c'est plutôt les fondamentalistes. Donc, voilà, donc le monde n'est pas dichotomique, en tout cas antagoniste ou manichéen. Alors, en ce qui concerne maintenant l'émergence de tout cela, ben évidemment, les paroles s'envolent, les croyances, on ne sait pas trop, on a des objets. Et en tout cas, s'il y a une chose qui a complètement éclaté ces 20 dernières années, c'est l'idée d'une évolution linéaire qui va tout droit vers nous. Ça, vous pouvez oublier. Depuis que je suis rentré dans ce métier, grâce à Yves Coppens et Bernard Vandermeersch, j'ai eu la chance, il y a 30 ans, d'être avec celui qui allait faire éclater le sommet de l'arbre, Bernard Vandermeersch, et celui qui allait faire éclater la base, donc Yves Coppens. Et à partir de là, l'évolution, c'est un buissonnement absolument étonnant qui va nous amener à des choses tout à fait troublantes. Dans un travail récent, à la demande du monde économique et social, j'ai regardé un petit peu, en m'inspirant de Condorcet, pardon, c'est un peu prétentieux, mais Jeremy Rifkin aussi, quels étaient les grands changements dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, à chaque fois, vous avez un ensemble d'éléments de consilience, ce que Schumpeter appelait des grappes d'innovation. À chaque fois, vous avez des nouvelles formes de communication ou d'expression des connaissances. Là, c'est le langage, nous sommes il y a 2 millions d'années. Hein. Certainement, les premiers récits. Car l'objet que vous avez là à gauche, ça s'appelle un biface. La manière dont se fabrique cet objet, c'est exactement dans la manière dont, sur le plan cognitif, nous construisons un langage. Et là, vous avez un choix de matière, vous avez une esthétique, vous avez de l'émotion. Franchement, cet objet-là, bien sûr, il a une efficacité. Mais en dessous, j'ai mis cette représentation. Vous prenez un épieu. On en a assez rare, hein, de trouver du bois fossile, c'est très rare. Mais un épieu est pointé, donc, et passé au feu de bois, c'est tout aussi efficace. Donc, dès cette époque-là, rapidement, depuis un million d'années, hein, les colorants, l'esthétique, le langage, des structures sociales nouvelles, de nouvelles formes d'énergie, tout ça intervient donc en même temps. Ça ne veut pas dire que ça apparaît simultanément, mais ces éléments, une fois mis ensemble, ça vous donne des changements considérables. Et voilà le schéma que nous avons aujourd'hui de la lignée humaine. En fait, les hommes, le genre homo, hein, les humains apparaissent en Afrique il y a à peu près 2 millions d'années, un peu plus, entre 2 millions d'années et 3 millions d'années. On n'est pas tous d'accord là-dessus, notamment entre Yves Coppens et moi, mais enfin ça c'est la science, hein. Et il va y avoir un phénomène tout à fait inouï que je décris en détail dans mon dernier livre de Darwin et Lévi-Strauss, c'est que l'homme va être la seule espèce de grand singe à se répartir sur toute la Terre. Et à partir de là, il va y avoir, bien sûr, des divergences, plusieurs espèces. Donc voilà l'état actuel des connaissances. Et ça, ça va vraiment nous bousculer il y a 20 ans. Notamment, on sait depuis très peu de temps, depuis une vingtaine d'années de manière sûre, que Néandertal, qui est dans la figure du bas à droite, Néandertal est à gauche, Cro-Magnon est à droite. Et bien que nous avons été contemporains. Quand Bernard Vandermeersch, au début des années 80, fouille au Proche-Orient, à Kavzay et ses collègues à Hamoud et à Skoul, il y a un schéma qu'on ne connaît pas en Europe continentale. C'est-à-dire que chez nous en France, où la préhistoire a commencé, l'homme de Néandertal est toujours avant l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire vous et moi. Et ils sont associés à des faciès culturels différents. Néandertal, c'est ce qu'on appelle le moustérien, au paléolithique moyen pour faire simple. L'homme de Cro-Magnon, c'est le paléolithique supérieur, notamment avec le gravétien, et évidemment, bien sûr, l'art préhistorique après. Mais au Proche-Orient, on n'a pas ce schéma. Autour du Mont Carmel, il y a deux grottes où on a des sépultures de Néandertal, deux grottes où on a des sépultures qu'on appelle proto-Cro-Magnon, je dirais Cro-Magnon pour faire simple, en tout cas c'est vous et moi. Mais à ce moment-là, serait-il contemporain? Et là, ça pose un vrai problème par rapport à tout notre héritage philosophique et religieux et théologique. Puisqu'il y a un seul homme face à son créateur, peut-on avoir deux hommes qui enterrent leur mort et donc qui ont une spiritualité? Et bien, c'est ce qu'on a fait. Pour des raisons qui sont liées non pas à la science, il fallait le démontrer cependant, mais à notre grand héritage historique, on a fait de l'homme de Néandertal une sous-espèce de la nôtre. Comme ça, il ne restait qu'une seule espèce. Et c'était à peine conscient d'ailleurs, ça n'a pas été revendiqué comme ça. Récemment, nos collègues russes ont trouvé à Denisova une petite phalange, ça date de 3 ans. On sait que c'est un homme, enfin c'est une femme en l'occurrence, sexe féminin. On a extrait de l'ADN et on sait qu'on a encore une autre lignée. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose de complètement inouï qu'on a eu du mal à construire et à concevoir, c'est qu'il a existé plusieurs espèces d'hommes conscientes qui enterraient leur mort et qui étaient contemporaines. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus se reproduire avec eux. Donc, il faut concevoir une humanité, comme j'aime à dire, à plusieurs visages. Jusqu'il y a 20 ans, une espèce était consubstantielle de ce qui l'entourait en termes de croyances, de culture, de pratiques religieuses, etc. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une déconnexion totale entre le biologique et ce qu'on appellera l'humain dans ses conceptions les plus avancées, notamment le rapport aux morts, à la pensée, à la spiritualité et aux croyances. Alors, comme on a du mal à se départir de cette position arrogante qu'est la nôtre, il y en a qui considèrent aujourd'hui que Néandertal nous a tout pris ou que lui a tout donné. Pas de chance. Nous sommes en Espagne, dans le nord de l'Espagne, à Taperca. Eh bien, c'est la plus ancienne trace avérée, prouvée, bien établie, de préoccupation autour des défunts. Ça date de 400 000 ans, je répète bien 400 000 ans. Notre espèce n'a même pas encore apparu en Afrique, parce que les données maximales, c'est 300 000 ans. Et là, vous avez une reconstitution d'un puits aux ossements, où là, on a retrouvé les restes de plusieurs dizaines d'hommes, femmes, enfants de tous les âges. Et au milieu, cette pierre tout à fait particulière, qui est en quartzite rouge, qui n'utilisait pas autrement, que les chercheurs appelaient Excalibur, je ne trouve pas ça très futé, mais enfin qu'importe, parce que ça bouscule, mélange les mythes. Mais en attendant, franchement, ces corps ne sont pas arrivés tout seuls, il faut les traîner au minimum pendant 50 mètres accroupis. Donc ils ne sont pas arrivés tout seuls, évidemment ce n'est pas les ours, ce n'est pas les hyènes, hein, on a vérifié. Hein. Et donc il y a donc une espèce de chapelle ardente, au vrai sens du terme, où on trouve cela. Néandertal, c'est les plus anciennes sépultures. Vous avez ici, en 1908, en haut à gauche, la chapelle au sein. Alors là, c'est extraordinaire, la chapelle au sein. L'homme de Néandertal, 1908. Et là, découvert, c'est pas mince, par l'abbé Breuil, les deux chamoines Buissonni, plus le père Braque. Donc là, c'est quand même extraordinaire. Hein. Je rappelle que la préhistoire doit beaucoup aux gens de robe, c'est-à-dire aux juges, et bien sûr, aux gens d'église, qui étaient parmi les personnes les plus instruites à la fin du 19e siècle. Bien sûr, il y avait des scientifiques et des philosophes. Donc, la chapelle au sein, c'est une sépulture. Vous avez aussi le Proche-Orient. Et là, c'est l'homme de Shanidar, qu'on appelait la tombe de l'homme avec des fleurs. Et là, c'est une petite nécropole, dans une grotte immense. Et dans deux de ces tombes, on a retrouvé des hommes handicapés, c'est-à-dire qu'ils étaient handicapés de naissance. Et ils ont vécu jusqu'à 40 ans, ça veut dire qu'il y avait de l'empathie, que le groupe les soutenait. D'accord ? En bas à droite, c'est évidemment la manière, c'est la reconstitution au-dessus de ce que cette tombe nous a livré. Et on a retrouvé des pollens, il était enterré avec des offrandes, etc. Donc il y avait l'idée, en donnant des offrandes du gibier, qu'il y avait une vie après la mort, donc il y avait une viatique. On lui donnait aussi des outils pour trouver, donc voilà, la vie se prolongeait au-delà. Hein. Et puis des fleurs, évidemment, les fleurs, comme vous savez, c'est le renouveau. Bien, alors en bas à gauche, vous avez donc effectivement au Proche-Orient, parce que Néandertal, c'est le nord de la Méditerranée, nous, c'est le sud, et évidemment, au gré des fluctuations climatiques, nous allons nous rencontrer au Proche-Orient, et c'est là qu'effectivement, il y a des échanges, et nous avons beaucoup de sites extraordinaires, comme Amoud, Skoul, Tabunt, j'ai oublié Tabunt tout à l'heure, et Kavzeh, où on a donc des proto-cromagnons, et là, nous sommes il y a 100 000 ans. Alors, à Taperka, je rappelle 400 000 ans, et là, nous sommes il y a 100 000 ans. Là, c'est vraiment des sépultures bien avérées. Qui a commencé ? Personne ne sait. Amoud, Kavzeh, l'envoyé. En bas à gauche, vous avez Amoud complètement à gauche. En bas à droite, vous avez l'homme de Kavzeh. Donc, il ressemble à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Alors j'ai eu la chance, grâce à Bernard Vandermeer, de travailler sur celle qui est en haut à droite. Vous voyez, offrande avec un bouquetin. Et sur la gauche, évidemment, c'est le même, où le petit enfant est enterré au pied de sa mère. Et en bas à droite, vous avez le célébrissime homme de Menton, là évidemment, qui était nanti d'une coiffe. Donc là, quand on arrive à de telles diversités de modes de sépulture, d'ornements, etc., ça veut dire que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain et que ces pratiques sont extrêmement anciennes, que ce soit chez Néandertal ou Cro-Magnon. Et dans les sites du Paléolithique supérieur, les choses vont se compliquer, puisque là, on va commencer à retrouver, comme ici à Donjevičanić, en haut à droite, en Yougoslavie, des tombes collectives. Et voilà l'éclatement symbolique. Il y a eu du symbole avant, il y avait des colorants, il y avait des outils, il y avait des habits, il y avait des sépultures, ça je vous l'ai dit. Mais là, il y a un changement important qui se fait vers la fin de la préhistoire. Nous sommes à 25 000 ans. Au milieu, mesdames et messieurs, vous avez un des quatre corps de la tombe de Chengir en Ukraine qui a été mise au jour en 1955, en pleine guerre froide. Et là, les petits points que vous voyez, ce sont des perles en ivoire de mammouth. Or, le mammouth est un animal à poils, mais pas à perles, et il faut les faire. Eh bien, sachez que là, ça représente 40 000 heures de travail. Donc, quand on a dit que dans la préhistoire, ces hommes avaient tellement faim et ces femmes avaient tellement faim qu'ils ne pouvaient pas créer, innover, avoir des croyances, ceci est complètement faux, parce qu'il y a quatre corps comme celui-là, celui-ci le plus complexe. Et donc, vous avez des milliers de perles en ivoire de mammouth. Et là, je vous le disais, il y avait du commerce. Et en fait, ils débitaient l'ivoire de mammouth, qui était faisait objet de commerce. Hein, les baguettes étaient exportées et ensuite fabriquées, cousu sur les vêtements, avec un diadème que vous voyez. Il y avait des bracelets en ivoire de mammouth, il y avait un diadème aussi en canine de renard polaire. Donc tout ça, mesdames et messieurs, il faut aller le chercher, ça ne se fait pas tout seul. Et ça montre bien que là, vous avez quelque chose de nouveau qui apparaît. Il y a toujours eu des chefs, hommes ou femmes, des chamans, mais là, vous avez une société beaucoup plus structurée. On a des habitats beaucoup plus concentrés. On a des maisons consacrées à des réunions collectives. Donc nous sommes il y a 25 000 ans, 27 000 ans exactement. Et là, évidemment, tout ceci, regardez en bas à droite, ces feuilles de laurier en obsidienne, vous soufflez dessus, elles se cassent, elles font 30 cm de long. Ça, on le fait, évidemment, non pas pour aller à la chasse, ce sont des objets extrêmement précieux, évidemment, qui font l'objet de valorisation énorme. Bien sûr, en haut à droite, la Vénus de Lespung, avec son tablier extraordinaire, et en bas à gauche, Lascaux. Donc, vous voyez, tout ceci est bien plus ancien qu'on l'imaginait, et très clairement, une société qui arrive à réaliser tout cela, une société déjà extrêmement complexe, avec des croyances extrêmement élaborées. Et ce deuxième changement, alors attention, Néandertal était vraiment super, hein. Denisova, on ne sait pas trop, on a que l'ADN, etc. Mais balayons tous nos clichés du primitif, hein. Je rappelle quand même que toutes les formes d'art qui sont les nôtres ont été inventées à cette époque-là, avant qu'on ait l'électricité et le cinéma. D'accord? Sculpture, gravure, peinture, musique, danse, poésie, narration, hein. Avant la fin du 19e siècle, on n'a rien inventé. Alors, quand je dis j'ai inventé, c'est archaïque, au sens où je disais tout à l'heure. Évidemment, personne n'ira renier Giotto ou la Chapelle Sixtine, on est bien d'accord. Hein. Donc, et là, qu'est-ce qui est changé? C'est cette grappe d'innovation. Eh bien, cette fois-ci, on a bien sûr les langages et les langues, mais on a les arts et des modes d'expression complexes, de nouvelles croyances, lesquelles je n'en sais rien du tout. On peut croire que c'est de l'animisme ou du totémisme. Ça, c'est pas grave. Mais en attendant, il y a quelque chose de nouveau. Des cerveaux plus connectés. On se déplace plus vite parce qu'ils y vont en bateau. Là aussi, on a dit souvent que les innovations technologiques étaient la fille des nécessités. C'est vraiment les grands questionnements d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais attendez, on a oublié qu'en fait, les plus grandes innovations technologiques sont liées à l'art, à l'émotion, aux croyances, à l'esthétique. Car à Donjevičanić, qu'on a vu tout à l'heure, les premiers fours n'ont pas été faits pour faire des poteries. Ils ont été en fait maîtrisés pour cuire ces Vénus qu'on a vues tout à l'heure. Comme la technique de ces feuilles de laurier, ça n'a pas été fait, évidemment, pour aller à la chasse, c'est trop fragile. Donc on a oublié combien, effectivement, nos croyances, nos émotions, l'art, l'esthétique sont l'objet, et ceci n'a pas changé, franchement. Regardez l'art contemporain, allez à la FIAC, regardez ce que font les artistes d'aujourd'hui sur les nouveaux matériaux, les nouvelles. Hein, c'est des sources d'innovation extraordinaires dont les industries feraient bien de s'occuper un peu mieux. Donc, et en fait, ce qu'on sait maintenant, alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Dans les années 1970, le grand monsieur Cavelli Sforza, de la maison des Sforza, donc de Milan, mais très grand linguiste, lance ce travail avec ses équipes sur la reconstitution dans ce qu'on appellera abusivement la langue mère. En tout cas, c'est retrouver les arbres de parenté entre les langues afin de restituer leur histoire depuis leurs origines. C'est le tableau qui est en bas à droite. Et à gauche de ce tableau, vous avez les arbres génétiques. Alors, Cafeli Sforza, Luigi, va dans le laboratoire d'à côté, à Berkeley, pour rencontrer ses amis qui travaillent en génétique des populations, génétique historique. Il dit, tiens, vous travaillez sur mes données. Les autres lui disent, mais pas du tout. Ce sont nos données à nous. Il dit, attendez, je reviens. Il regarde l'arbre des langues, il regarde l'arbre des gènes, et il se superpose. Et pour quelle raison? Comme le disait Lévi-Strauss, les peuples se déplacent avec leur langue et leurs gènes, donc effectivement, la distribution géographique des populations se recoupe, non pas qu'on a un gène qui correspond à une langue, mais c'est un fait d'histoire. Et ce que l'on sait maintenant, et Claude Lévi-Strauss n'a pas terminé ce travail, et cet après-midi, en préparant cette conférence, alors c'est en haut à gauche, hein, vous ne pouvez pas lire, moi non plus d'ailleurs, on a maintenant des travaux, notamment en France, hein, monsieur Duy, D-Y-H-U-Y, qui justement, en s'inspirant de nos méthodes, regarde effectivement si on ne peut pas faire un arbre de parenté de diffusion des mythes. Et là, effectivement, on retrouve le même arbre. Donc les peuples se sont déplacés avec leur langue, leur gène et leur mythe. Alors, je donne un exemple qui est tout bête, parce que ça va passer à la télé là. Le mythe du Yeti, qui va donner le Sasquatch en Amérique du Nord. Eh, il n'y a jamais eu de grand singe en Amérique du Nord. Jamais. Le premier qui arrive, c'est nous. Alors comment se fait-il qu'il y a des croyances sur le Sasquatch ? Ben parce que les peuples qui viennent, on le sait, il y a eu trois vagues qui viennent d'Asie orientale. Ces peuples d'Asie orientale et centrale, évidemment, je rappelle que le Yeti a existé, hein, le dernier, c'était il y a 100 000 ans. Hein. Donc en tout cas, ça a marqué les légendes, ça s'est maintenu. Et, le Yeti n'est pas arrivé physiquement, mais il est arrivé, évidemment, avec les mythes. Et les Amérindiens l'ont perpétué. Donc vous voyez, c'est assez fascinant ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui dans le cadre de nos connaissances. Et donc, comme dit Lévi-Strauss, c'est une histoire naturelle. Quand je dis une histoire naturelle, il n'y a pas de provocation, etc. Donc, c'est un fait qui est lié à une histoire des hommes, des peuples et de leurs croyances qui se diffusent donc, de par le monde. Et alors, justement, comment ça peut se diffuser? Alors ça, évidemment, c'est la période plus récente, avec le prosélytisme, avec les missionnaires, etc. Eh bien, c'est intéressant de voir la convergence, parce que M. Richard Dawkins qui parle de mèmes. Alors, c'est quoi les mèmes? Les mèmes, c'est des éléments de pensée ou des concepts qui se diffusent d'un cerveau à l'autre. Par exemple, l'idée de Dieu est un mème qui se diffuse. Celui-là, c'est quand même un de ceux qui a le plus de succès. Hein. Donc, ou le mythème. Et en fait, c'est Claude Lévi-Strauss qui avait été à l'initiative de ça. Donc, comme, évidemment, quand les Français font quelque chose et que les Américains le prennent, c'est la version américaine qui prévaut, d'autant plus que les collègues français préfèrent prendre ce qui vient des... Voilà, vous connaissez le truc. Hein. Bon. En attendant, on commence à mieux comprendre ça. Alors, c'est amusant parce qu'on sait aujourd'hui, avec la virologie et l'étude des agents pathogènes, que l'ADN peut se transmettre horizontalement. Et donc, on a des modèles. Alors, je ne dis pas que les croyances, c'est comme les virus, hein, ce n'est pas mon propos. Mais je parle de mécanismes de diffusion, c'est ça que je suis en train de dire, effectivement, qui se permettent de reconstituer ces histoires. Et ça, c'est tout à fait récent, hein, ça vient de sortir, si je peux me permettre. 5 minutes. Eh bien, justement, j'ai presque fini. Donc, tout ça, c'est un grand changement, notre façon de comprendre les choses. Et l'autre grand changement qui va amener, évidemment, à ce qui va suivre dans le cadre de cette formation et de cet enseignement, c'est que là va arriver le troisième grand changement dans l'histoire de l'humanité. Hein, je rappelle rapidement que les peuples ne se sont pas dit « Tiens, on a plein d'enfants, il va falloir qu'on les nourrisse, donc on va inventer l'agriculture. » Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je vous renvoie à un très très beau livre d'un Français qui s'appelle Jacques Covin, qui s'intitule « Invention des divinités et invention des agricultures ». C'est-à-dire que de tels changements ne peuvent pas se faire sans que ça touche tous les aspects de la société, même ceux qu'on croit les plus détachés des conditions matérialistes, c'est-à-dire que là vont apparaître évidemment les grandes religions. Et bien là, vous avez des changements dans tous ces domaines, écriture, grande religion, grand système philosophique, cerveau de plus en plus connecté, ça va être dans la ville. Hein. Les gens des campagnes ne sont pas plus bêtes que les gens des villes. Mais en ville, on s'en compte plus facilement, donc ça fixe plus facilement l'innovation. Nouveau mode de locomotion, évidemment, les chevaux et la roue, là, ça va aller vite. Hein, je rappelle qu'on est sorti de l'ère du cheval qu'à la Seconde Guerre mondiale. Nouvelle matière, donc métaux, céramique, poterie, bien sûr. Four, domestication, esclavage, malheureusement. Cité, empire. Et à chaque fois, vous avez une nouvelle classe sociale qui apparaît. Hein. Il y a 2 millions d'années, c'est les différences hommes-femmes qui s'accentuent. À l'époque de Cro-Magnon, certainement les grands chamans, hommes ou femmes médecine. Voilà, je ne l'ai pas dit. Et là, évidemment, vont apparaître les prêtres et les guerriers. Et à chaque fois, vous avez de nouvelles façons de faire de la monnaie, du troc. Donc, vous avez à chaque fois cette grappe de changement. Alors ça, hop, comme j'ai 5 minutes, on arrête. Alors, parce qu'on m'avait demandé à HEC récemment de parler des origines de la ville, donc c'est un peu lié. Et j'ai remarqué une chose, ah, ça m'a frappé, j'ai vu ça nulle part. Les inventions des agricultures, et ça, on ne sait pas l'expliquer, c'est apparu dans 6 ou 7 foyers indépendants, en haut. Par contre, on n'a pas partout des civilisations ou des villes, et partout où on a des civilisations ou des villes, on a domestiqué non pas que des plantes, mais aussi des animaux. Corrélation, je ne dis pas qu'il y a sens, hein. Corrélation, d'accord? Hein? Mais en tout cas, c'est assez étonnant, donc vous voyez, il reste encore beaucoup de choses à éclaircir. Et là, hop, on y va. Ça commence en croissant fertile. Les plus anciennes traces d'agriculture sont effectivement à la sortie du dernier âge glaciaire, donc il y a 12 000 ans par rapport à aujourd'hui. Alors pardonnez-moi pour l'anecdote et sans aucune provocation. Un jour, quelqu'un me demande l'âge de Lucie. Je lui dis 3 125 000 ans. Et la personne est vraiment secouée. Elle me dit avant ou après Jésus-Christ. Je dis écoutez, on va prendre un peu de temps. Hein. Donc, non, mais les Américains, ils sont embêtants. Mais quand j'écris des bouquins, ils me disent c'est 3 millions d'années, mais tu mets avant Jésus-Christ. Je dis ça va, quoi, attends. Les gens, c'est quand même pas idiot. Mais enfin, bon, vous voyez, c'est des réflexes. Non, mais tout ça. Par-delà l'anecdote, on voit que c'est un référentiel puissant. C'est ça, évidemment. Voilà, on ne peut pas échapper, c'est évident. Alors. Les plus anciennes villes, évidemment, on les trouve dans le croissant fertile. Alors, le croissant fertile, je vous le rappelle, hein, c'est l'art qui parle de l'Anatolie, du Liban, ensuite Anatolie, une partie de l'Anatolie, Syrie, Irak, Mésopotamie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Eh bien, c'est le réchauffement climatique. Et il y a une diversité extraordinaire de plantes et d'animaux. C'est-à-dire toutes les formes sauvages. Quand vous allez en Turquie ou au Liban, ou même une partie du Maghreb, mais surtout dans l'Est méditerranéen, tous les mezzés, etc. Hein, tout ça, ces préparations absolument sublimes. D'ailleurs, de toute façon, c'est clair. Hein, plus la cuisine est diversifiée, plus l'agriculture est apparue il y a longtemps. Hein, ça, c'est indéniable. Hein. Et donc là, tout ça, ça vient de là. Et on a toutes les souches sauvages hein, pour les plantes à côté, pour le blé. Bon, le millet, ça vient de Chine, le blé, l'orge, etc. Évidemment, pour les plus anciens animaux domestiqués, sont les chèvres et les moutons. Donc, on a ça à côté. Alors, je ne parle pas du chien. Le chien, on sait que ça remonte à 30 000 ans. Hein, ça fait au moins 30 000 ans que le chien accompagne les hommes. Hein. Quant au chat, il s'est invité tout seul, comme d'habitude. C'est le seul animal qui a domestiqué l'homme. Hein. Donc, et les plus anciennes cités vont être des cités oasis. Donc, centrées sur des refuges. Donc, des cités-refuges refermées sur elles-mêmes, protégées du monde extérieur. Et c'est le début des embêtements parce que, évidemment, on stocke. Si on stocke, il y a de la valeur. S'il y a de la valeur, ça suscite des envies. Et donc, évidemment, ces cités vont se défendre. Là, c'est plutôt de gros pueblos. Et ce qui est intéressant, une des plus anciennes villes, c'est Jéricho. Et Jéricho, c'est la seule cité qui a toujours été habitée sans interruption depuis 10 000 ans. La seule cité occupée sans interruption depuis 10 000 ans. Je vais arrêter. Donc, je n'en ai pas pour 10 000 ans, je vous rassure. Hein. Voilà ces cités-refuges, où là, on va commencer à voir changer donc, les divinités. On passe de toutes ces formes qu'on avait vues animales. Il y a aussi beaucoup de représentations symboliques, hein, géométriques, etc. Et là, à Chataluyuk, donc là, on est en Anatolie, vous voyez, on passe que par les terrasses, c'est comme des pueblos, hein, donc il n'y aura pas que là que ça apparaît, mais ce sont les plus anciens vestiges. Et là, on voit apparaître deux culte de la féminité et aussi le culte de la puissance avec les taureaux. Et si vous l'avez remarqué, tout l'Est méditerranéen va être marqué par le symbole du taureau. Les monts Taurus, la mer Ionienne, le Minotaure, le Taurobol, les taureaux de Memphis, le Bosphore, qui est le passage du bœuf, jusqu'au culte de Mithra porté par les légions romaines. Et la chrétienté a eu évidemment des difficultés avec ce culte de la puissance qui naît d'Orient et porté par les légions romaines jusque dans l'Occident, jusqu'en Europe. Et donc là, voici Jéricho. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des figures humaines. Pendant la préhistoire, les figurations humaines sont extrêmement rares. On en a vu quelques-unes, mais on n'en a pas 30. On n'a jamais de représentation d'homme, le mâle, et des représentations de femmes, on en a vu, mais c'est aussi très rare. Et les visages, jamais. Donc là, ce qui va apparaître, ce sont les visages, donc le regard, donc la notion donc, de la vision, de la compréhension, de la vision du monde. Donc tout ceci commence à se mettre en place à cette époque. Voici En Gazal, qui est juste à côté de Jéricho. Vous voyez toujours ces pueblos. Et là, on a des figurines où là, il y a un regard. Donc, ça donnera plus tard chez nous la Providence, hein, d'une certaine manière, hein, le regard. Un rôle tellement important par la Renaissance, mais ceci apparaît à cette époque-là avec le dualisme. Hein. En bas à gauche, on a une double statue. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des changements importants. Là, c'est le Telbrac, pour la petite histoire, sauf la figure en bas à droite qui est plus récente, mais ça a été occupé très longtemps. Et le Telbrac était, pour la petite histoire, fouillé par Max Mallowan, qui était le mari d'Agatha Christie. Donc, meurtre en Mésopotamie, vient de là. Et vous voyez donc ces tels, ce qu'on appelle ces plateaux refuges, où il y a eu des successions, des dizaines de successions et de bâtiments, où là on va commencer à avoir des structurations, des figures de plus en plus humaines. Donc là je passe vite. Et donc là, l'âge du bronze, ben, ça va fonder directement ce qu'on appelle les civilisations. Donc voici ce fameux croissant fertile. Et là, on va passer des oasis au fleuve. Donc là, les plus anciennes cités vont être Ur, Uruk, etc. Où là, d'un seul coup, c'est la ville ouverte sur le monde extérieur, 30 000 à 40 000 habitants en 1000 ans. En 1000 ans, c'est extrêmement rapide. Donc on a un changement extrêmement brutal, et je pense pas que, et je pense que très certainement, évidemment, je ne prends pas de risque là, que le concept d'un point de vue philosophique de création, donc c'est la domination de plus en plus de l'homme sur la nature. Vous avez en bas à gauche le souverain face à son dieu, les écritures, donc Ur, le premier récit des origines, Gilgamesh, et on a des entités divine de plus en plus masculine, et là on va voir disparaître évidemment petit à petit le culte de la fécondité, si on l'associe à ces statuettes qu'on a vues comme à Çatalhöyük, et le culte du taureau va continuer un peu, parce que le mythe du taureau, le taureau c'est encore Enki, et il y aura ses deux fils avec des cornes, Enki et Beli, je crois, ou Enki et... Qu'importe. En tout cas, c'est le cycle de Gilgamesh, dont la Bible d'ailleurs reprend beaucoup d'éléments, comme le déluge. Hein, le déluge, évidemment. La mer, il faut savoir qu'elle était beaucoup plus proche. Hein, elle remontait 200 km sur la Mésopotamie. Et évidemment, ils ont dû connaître des crues. Donc tout ça se retrouve là. Alors, je ne suis pas en train de faire du concordisme. Hein, soyons clairs, on sait qu'il y a une grande discipline qui s'appelle l'archéologie biblique. Mais il y a beaucoup d'éléments, évidemment. Ces gens observaient, notaient. Et ça se retrouve dans ces récits. Donc Uruk, vous voyez, cette fois-ci, on a des cités-états de plus en plus structurées. Ça avance. Marie, regardez, une ville complètement utopique, complètement dingue, où là, on a des sociétés complètement stratifiées. Et ce que l'on a, évidemment, c'est une verticalisation du monde. Les sociétés se structurent avec des étages, avec les paysans, les artisans qui produisent, les classes intermédiaires, les administrations qui apparaissent, etc. Et évidemment, au sommet, on a les prêtres, les guerriers et les nobles. Donc, ce qu'on appelle la pensée axiale, donc verticalisation du monde. Et dans cette affaire-là, bien évidemment, on va avoir des divinités qui vont se réduire en nombre, qui vont devenir de plus en plus anthropomorphes. Là, j'ai mis Mohenjo-Daro parce que c'est dans le delta du Gange, et vous avez encore le taureau qui est là, et c'est l'idée qu'il y a encore un matriarcat. Alors ça, mesdames, je suis désolé, c'est vrai que les archéologues féministes américaines auraient tant aimé qu'il y ait un matriarcat ancestral. Moi, ça, l'hypothèse ne me gêne pas du tout, etc. Mais malheureusement, je crois qu'à cette époque-là, les dés sont jetés. Et vous voyez, en effet, qu'on a une verticalisation du monde. Les dieux du panthéon égyptien ont des corps d'hommes et de femmes et encore des têtes d'animaux. En haut à droite, vous avez le dieu Thoth, qui est un babouin madrias, oui, le protecteur des écritures. On ne risque pas d'avoir ça chez nous en Europe. Et puis évidemment, les dieux de l'Olympe, vous avez en bas le roi Mazda. Donc, de moins en moins de divinités, de plus en plus masculines.
Pascal ?
Oui, j'ai fini.
Pardon, car comme vous venez d'évoquer l'administration, enfin l'apparition de l'administration, je me permets justement...
Et voilà. Donc voilà, donc ces visions féminines, bien sûr, il y a une continuité, mais très clairement, je termine là, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça fait là. On va y aller. Je vais vous donner la dernière. Donc voici le monde dans lequel on va. Donc en tout cas, vous voyez ces représentations verticales, ces villes, ces pyramides, on les trouvera partout et dans toutes les grandes civilisations, que ce soit avec les pyramides aztèques, que ce soit aussi chez les Incas, que ce soit encore, mais ça c'est beaucoup plus récent. Partout, on trouve le même schéma. Mon propos n'est pas de dire que les conditions matérielles ou la structure des sociétés donne forcément telle ou telle type de religion, ce n'est pas mon propos, mais partout on a vraiment des convergences absolument très, vraiment très puissantes dans les sociétés, leur stratification, et que ce soit en Égypte ou ailleurs, on va voir émerger un seul dieu parmi les autres, qui domine les autres, et d'ailleurs un mythe mésopotamien parle du dieu An, qui s'éloigne de plus en plus, et effectivement c'est ce dont on va hérité avec des intermédiaires qui seront ou les Christ, ou les saints, ou les djinns, tout ce que vous voudrez. Mais en attendant, ce Dieu, donc totipotent et créateur. Donc
Parce qu'on va,
aujourd'hui,
on va passer aux questions,
je
Pascal,
m'arrête là. Voilà.
parce
Donc
que c'est,
aujourd'hui,
je
de vrais
pense qu'on.
enjeux sont là sur, effectivement, comprendre les mondes de demain. Et j'en remercie. J'ai fini.
Merci, Pascal.